complaining. Days go by, still no reply. Not even a heart, we tripping like Dubai. Months go by, I'm so fly. Shows on the road, I'm living life. And now you tryna come running right back. But you never was consistent. I try to tell you, you ain't never wanna listen. You ain't never wanna listen to me. We can take it slow. Which way you wanna go? Just know I'm down for sure. Half the time you drive me crazy. I still wanna hold you, baby. I get the feeling you don't live it. You made a promise you won't play.
CKUT 90.3, it's been
resistant.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
The following is a previously broadcast program.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast juridique « Touche pas à mes droits » de la clinique juridique de Saint-Michel, où on dédie notre voix, notre mission et tous nos bénévoles à parler pour mettre en lumière l'importance d'éradiquer le profilage racial. Alors aujourd'hui, je suis avec ma collègue Oumi, moi je m'appelle Iva et on est avec également Lina. Et on est ici aujourd'hui, donc encore une fois, un remerciement au Forum jeunesse de Saint-Michel, à Neolabs et à la ville de Montréal, d'être nos commanditaires, d'être nos partenaires pour la réussite de cette émission. Alors, vous savez, on parle beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers épisodes, de l'importance, en fait, des problèmes qu'il y a au sein de la police, du manque de formation, de sensibilisation à l'égard de leur interaction avec les minorités. Cependant, aujourd'hui, on aimerait vous parler de quelque chose de plus positif. On veut souligner les efforts qui sont faits parmi certains corps policiers afin d'éradiquer le phénomène du profilage racial. Et aujourd'hui, justement, on est avec Maître Shahad, donc Maître Shahad Salman, qui va justement nous parler de ça. Alors, membre du barreau du Québec, elle est diplômée en droit de l'Université de Montréal et titulaire d'un juriste docteur en common law, en plus d'avoir une maîtrise d'Université McGill. En parallèle avec sa carrière professionnelle, elle est impliquée activement au sein de plusieurs organismes, actuellement sur les conseils d'administration du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à titre de présidente et du Mouvement pour une démocratie nouvelle. Alors, Madame Shahad est également cofondatrice de l'agence UNA, une agence d'impact social qui se spécialise en gouvernance inclusive et relations publiques. Ainsi, elle aide des entreprises et institutions publiques à trouver les mots, le plan et la stratégie qui leur permettra de générer un impact au sein de leur organisation. Alors, Oumi, je te laisse procéder pour présenter le reste de Maître Shahad.
Donc, bonjour Maître Shahad. Donc, moi, c'est Oumi. Je suis également bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel et ça me fait tellement plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission et également de présenter avec Iba. C'est notre première fois ensemble. Donc, je suis vraiment contente. Et dans le fond, Maître Shahad, vous êtes une citoyenne qui est très impliquée dans tout ce qui est dialogue public pour justement favoriser cette entente entre les différents acteurs du milieu communautaire, etc. Donc, vous voyez en la diversité, dans le fond, un facteur de stimulation des idées. Puis, vous pensez que c'est important de mettre en valeur nos différences, du moment où ça se fait justement dans le respect de tout et dans l'écoute active de justement tous les acteurs. Donc, je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue sur notre émission aujourd'hui, Touche pas à mes droits. Comme Iba l'a si bien dit, on se consacre à renseigner nos auditeurs sur tout ce qui est profilage racial, les enjeux autour de cette thématique-là et Donc voilà. Donc on sait que au cours des deux dernières années au sein de du service de police de Repentigny, dans le fond la SPVR, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de plaintes concernant le profilage racial. Puis dans le fond, récemment, on a vu que la directrice dans le fond de ce service de police là veut vraiment mettre de l'avant l'inclusion des différents acteurs, mettre de l'avant le fait qu'ils veulent devenir dans le fond plus inclusifs. Donc vous justement, vous travaillez avec l'UNA. Corrigez-moi si je le dis bien. Donc c'est UENA, l'UNA. Et dans le fond, c'est dans le fond un organisme d'impact social spécialisé dans la gouvernance inclusive, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez nous donner un peu plus de renseignements là-dessus. Donc, vous êtes conseillère principale au sein de cet organisme-là. Et on voulait savoir un peu c'est quoi votre rôle, c'est quoi le rôle de cet organisme-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les acteurs, les discussions qui sont menées, qu'est-ce qui fonctionne dans le fond?
Donc, premièrement, bonjour à vous. C'est vraiment un plaisir de participer à ce podcast. Puis, vraiment contente d'embarquer dans cet échange-là. En fait, l'agence UNA, on dit UNA et non pas UNA.
Parfait. UNA.
Et comme vous l'avez dit, c'est une agence d'impact social qui se spécialise en gouvernance inclusive aux relations publiques et communautaires. Et en fait, l'agence est partie, c'est deux cofondatrices. Principale et avec ma collègue Daphina Savic. Et aujourd'hui, on est une équipe quand même de 6 personnes avec des parcours assez diversifiés. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les organisations à faire vivre leurs valeurs d'inclusion à travers des actions concrètes. En fait, je fais une petite parenthèse, l'agence est partie de l'idée qu'il est temps de un peu penser la diversité autrement pour les organisations et surtout un peu sortir de cette narrative traditionnelle de penser la diversité comme étant quelque chose de fermé d'un projet d'organisation plutôt que quelque chose qui est vraiment 360 ou systémique dans l'organisation. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises, institutions publiques et les organismes vraiment à travers trois volets. Vraiment, on ne veut pas que ce soit cloîtré dans un chantier spécifique de l'organisation. Donc, on regarde la gouvernance de l'organisation, gouvernance RH. On regarde les communications internes et externes. Donc, c'est bien beau prendre des projets ou des initiatives, mais si ton staff ne sait pas de quoi tu parles, donc il y a un côté, un angle mort qui t'échappe. Donc, communication et relations publiques et communautaires. Et on parle vraiment de relations avec le public. On sort de l'approche un peu traditionnelle qu'on peut prétendre langue de bois. C'est de dire qu'aujourd'hui, en 2021 et dans les années à venir, il n'est plus vraiment possible de parler de changement dans ton organisation sans vraiment bâtir un réel réseau de contacts et de conversations avec ton entourage, que ce soit une institution publique, c'est-à-dire tes citoyens, ou même une entreprise privée, tous tes partenaires locaux. Donc, c'est vraiment ça l'agence. Et je dirais, il y a vraiment trois valeurs qui teintent un peu la conversation qu'on va avoir, mais aussi tous les autres mandats qu'on accomplit. C'est que, de un, on n'y voit pas, on n'est pas dans une perspective de cocher des cases. C'est pas du tout... en fait, dès qu'on sait qu'il y a des cochages de cases, on s'en va ailleurs. On a vraiment notre temps est précieux. On va le mettre vraiment avec des organisations qui s'embarquent de façon authentique. On veut surtout générer un impact, et je vais en parler un peu comme on le voit pour le dossier du SPVR, mais c'est vraiment générer un impact parce qu'on veut pas créer des actions qu'on sait pas ce que ça fait du sens, ce que ça fait pas de sens, si ça marche, ça marche pas. Et à la fin, vraiment, une troisième valeur qui est vraiment importante, c'est on est vraiment ouverte à la conversation. On prend l'organisation là où est-ce qu'elle est. On fait vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas une organisation qui prétend ne pas être inclusive, mais c'est de voir comment est-ce qu'on... avec la réalité de cette organisation, comment est-ce qu'on peut faire vivre vraiment ces valeurs-là à travers des actions qui font du sens pour l'organisation. Donc, voilà l'agence.
Parfait, merci beaucoup pour cette belle présentation. Vas-y, Hiba.
Oui, justement, je me demandais, parce que ça fait plusieurs années que la SPVR cherche à contrer le problème du profilage racial en cherchant à se rapprocher, comme vous avez dit, davantage des minorités ethniques, de sa communauté, de se gagner leur confiance. Donc, notamment en faisant des rencontres citoyennes, des groupes de discussion, des barbecues et même lancement d'un comité. Mais selon la directrice du service de police de la ville de Repentigny, donc Hélène Dion, elle mentionnait qu'en novembre dernier, il y a encore un blocage. Donc, plusieurs critiques se demandent un petit peu pourquoi payer une firme pour déterminer s'il y a du profilage. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, en fait, déjà, il y a deux choses. C'est sûr que si on est là-dedans, c'est parce qu'il y a un problème. Ce qui est intéressant, c'est que le problème est multiple. Donc, déjà, ça, c'est un point vraiment important à souligner. Et en fait, je retourne un peu en arrière, un peu quand je vous dis que qui on est dans l'agence, ça teinte un peu tout le mandat, c'est que les gens ont toujours fait les choses pareillement dans le passé. On vient, on a un problème, on a des allégations, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un comité, on va essayer de communiquer de façon ponctuelle, on va finir par vouloir communiquer quelque chose, puis là, on ignore un peu l'angle mort. Là, on est action-réaction, surtout en fait avec une police, on est souvent dans action-réaction. Mm-hmm. Go, on fait ça. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, il y a des gens qui ont déjà créé des comités, alors créons un comité. Donc, tout ça, un peu le parcours dans lequel est passé le SPVR, mais pas juste le SPVR. En fait, l'agence vraiment travaille avec une diversité d'organisations, avec quand même, tu sais, dans le milieu sport, le sportif, les agences de publicité, des institutions publiques, des fondations. Donc, c'est un peu toujours la même réalité. C'est qu'on a toujours vu ça comme étant, ah, oh, il y a un problème, go, on réagit. Puis on a toujours réagi de cette façon-là. Et nous, en fait, quand on intervient dans la plupart des organisations, on commence par dire, ben, de un, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Puis, en fait, c'est souvent la même chose. Puis, l'autre volet, c'est de dire, OK, mais comment est-ce que vous voyez, c'est notre implication dans ce projet-là? Et souvent, c'est « Oh, on ne sait pas, on a pensé faire une petite affaire là, un petit… » Puis là, nous, on est comme « Non, si ce n'est pas dans une approche vraiment 360, ben en fait, l'impact va être vraiment mineur. » Il ne faut pas oublier, on est une agence d'impact social, on veut que le changement organisationnel apparaît puis qu'il y ait un impact éventuellement. Donc avec le SPVR, quand la chef de police dit ça, ben en fait… C'est qu'on est arrivé avec nous dans le dossier de les faire réaliser, mais aussi de, encore une fois, pas juste eux, de dire, ah, ben, en fait, ce qu'on a fait dans le passé, oui, on l'a fait avec toute la bonne volonté, mais en fait, c'est qu'on n'a pas réfléchi plus loin de qu'est-ce que ça peut rapporter, comment est-ce qu'on va le faire. On n'a pas une connaissance des réalités communautaires. Fait qu'on le fait avec notre tête de police. Finalement, les personnes sont déçus, puis nous, on est déçus. Et juste pour faire une petite parenthèse, moi, j'ai été de un peu tous les côtés, tant le monde corpo, ma collègue aussi, tant la société civile. Puis on a été un peu avec... on a été de l'autre côté, où est-ce qu'en fait, on fait partie de comités, puis tout le monde est frustré, il y a des bénévoles, puis les institutions publiques, elles ne te suivent pas, puis il n'y a personne qui se suit, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est vraiment dans une approche vraiment... C'est unique et sur mesure qu'on est embarqué avec le SPVR. Puis je pourrais vous en parler un peu davantage des phases dans lesquelles on fait, comment on s'y prend aussi.
Juste une question de curiosité avant de passer la prochaine question à Oumi. En fait, l'agence est spécifique uniquement avec le SPVR ou est-ce que vous comptez élargir un peu vos horizons et introduire également la SPVR ou peu importe d'autres services de police où c'est un peu plus problématique vis-à-vis le profilage racial? Mmh.
Ben, en fait, évidemment, comme nous, on est, on est une firme, on est une agence, on travaille avec les organisations qui nous sollicitent pour trouver une solution. Mais oui, comme je vous dis, on travaille avec par exemple l'Impact de Montréal, on a travaillé avec eux à l'automne dernier. On travaille avec une fondation sur le territoire actuellement. On travaille avec un organisme dans le milieu culturel. Puis toutes ces organisations, en fait, comme vous voyez, je ne mentionne pas nécessairement non plus des noms. On amène beaucoup les organisations à dire, en fait, avant de communiquer des intentions, prenez des actions. Puis c'est vraiment notre philosophie qu'on essaie vraiment d'apporter avec les personnes et les organisations avec lesquelles on travaille. Encore une fois, je vous dis, ça part vraiment du... Cette envie de faire les choses différemment, ça part d'un leadership. Puis on est vraiment contente d'avoir quand même accès à ce leadership positif, qui veut vraiment voir les choses différemment. Et c'est vraiment avec ces personnes-là qu'on finit par travailler. Évidemment, moi, je suis, tu sais, dans mes autres implications que vous avez mentionnées, j'étais aussi sur le comité profilage racial social du SPVM. Tu sais, je connais un peu aussi beaucoup le milieu policier de par en fait ce que j'ai fait dans le passé. Mm. Puis les défis d'une grande organisation comme le SPVM et le SPVR sont un peu différents, mais ultimement c'est vraiment encore une fois de prendre l'approche au niveau organisationnel qui va à notre sens faire une différence. Et un point que j'ai vraiment oublié de mentionner, c'est que ça prend du temps. Je sais que ça peut être frustrant, parce que c'est frustrant même pour moi qui est une personne qui est action oriented là, qui veut des résultats. Mais en fin de compte, c'est que dans le passé, on s'est jamais réellement donné du temps pour des projets EDI, ce qui a fait en sorte que il y a plein de projets qui n'ont pas marché, que ce soit des organisations dans lesquelles je m'étais impliquée au niveau bénévole ou autre, là, juste parce que on réagit à une rapidité, puis en fait c'est pas vraiment cette avenue-là que nous on favorise.
Non, c'est vraiment noble comme cause, et j'aime le fait que c'est sur une base volontaire. Donc, c'est vraiment les acteurs qui se disent on veut apporter des changements, et on va donc vous solliciter, vous, pour justement engendrer ce vecteur un peu de changement. Donc, je trouve que c'est quelque chose de vraiment noble. Donc, pour la prochaine question, moi, je voulais savoir un peu plus. Vous voyez, vous travaillez justement avec des policiers, avec justement les citoyens aussi. On sait qu'il y a eu des dommages un peu des deux bords. Les policiers vont se sentir un peu, comment dire, vexés du fait que on les voit comme les méchants un peu dans l'histoire. C'est eux qui font du profilage, c'est eux qui n'utilisent pas les bonnes méthodes, etc. Et alors que les minorités visibles vont se sentir un peu plus vulnérables, vont se sentir pourquoi c'est nous qui devons vivre cette injustice-là. Fait que moi, je veux savoir comment est-ce que vous faites pour concilier un peu ces deux acteurs-là. Comment est-ce que vous arrivez à parler aux policiers d'une certaine façon et parler à ces citoyens-là d'une autre façon, justement pour engendrer ce changement-là?
Mm-hmm. Ben, premièrement, tu sais, ce que vous dites, c'est vraiment un peu, encore une fois, un peu d'une certaine façon au cœur de l'agence quand on parle de, c'est vraiment la diversité de perspectives qui est en jeu, entre autres. Tu sais, comment les gens voient les choses. Premièrement, nous, on s'assure qu'aussi on a un regard vraiment diversifié dans notre équipe, là. Mm-hmm. Puis honnêtement, parfois, on va encore plus loin, parce que sur ces questions-là, tu as vraiment besoin le plus possible de perspectives sur la question. Je dirais que premièrement, avec le mandat avec le SPVR, on est vraiment en trois phases actuellement. On a une méthodologie basée sur cinq phases, donc sensibilisation, diagnostic, stratégie, éventuellement implantation et évaluation, qui se fait de façon continue. Mm-hmm. Et la phase de sensibilisation qui répond vraiment à votre question, en fait, on l'a réfléchi. Parce que pendant longtemps, on a trouvé qu'il y a un certain, compréhension des enjeux qui est vraiment totalement différente lorsque tu parles à une personne, prenons cet exemple, à un policier versus un citoyen, à une personne qui est gestionnaire dans une fondation versus celui qui demande l'argent. Donc, vraiment, ce sont des perspectives qui sont différentes, mais nous, on regarde l'organisation, puis le changement organisationnel passe par le fait, justement, que les gens à l'intérieur de l'organisation comprennent qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas dans une approche de dire un peu classique qui s'est fait, qui continue à se faire souvent, c'est qu'on annonce qu'on veut faire un plan d'action, on travaille avec des consultants, 6 mois plus tard, on a un plan d'action, puis la société civile elle regarde ça, puis elle dit « OK, ça ne nous parle pas », puis l'interne, en fait, il ne peut pas le dire publiquement, mais il le dit à l'interne, puis il regarde ça, puis il dit « Ben, ça ne marche pas plus pour nous non plus, puis on ne sait pas si on va embarquer là-dedans ». Donc, nous, la phase de sensibilisation, on prend vraiment ce temps-là d'avoir des conversations ouvertes, et je mets vraiment l'accent sur conversation. On n'est pas en train de faire un transfert de compétences, de savoir comment ils vont comprendre les biais inconscients, l'équité, diversité, inclusion, le profilage. Mm-hmm. Nous, pour nous, ce volet-là de formation, c'est un aboutissement d'un processus, là. Donc, dans la sensibilisation, on est vraiment dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient parler de cette démarche-là qu'on est en train de faire pour l'organisation. Une démarche, d'ailleurs, que le service a voulu nommer comme étant la démarche mobilisée pour sa communauté. Donc, on l'a nommée pour que les gens, justement, toute l'organisation interne, tu sais un peu c'est quoi cette démarche-là. Et donc, la phase de sensibilisation, on a passé vraiment toute l'automne à avoir plus de 20 conversations à l'interne avec les patrouilleurs, l'état-major, le syndicat, l'inspecteur-chef, donc un peu toutes les gens de l'organisation pour comprendre les réalités. Toute cette information qu'on a eue permet aussi de savoir, tu sais, éventuellement, si on a des choses à proposer, ben on sait qu'est-ce qui va faire du sens pour l'interne. Mm-hmm. Et l'autre aspect, comme quand vous dites comment on fait pour que on réconcilie, ben d'une certaine façon aussi, c'est que on a créé un comité interne qui lui aussi, en fait, c'est un comité strictement du staff. Donc on a une dizaine de personnes qui eux en fait s'embarquent vraiment dans la démarche pour nous challenger et les challenger dans toutes les actions qui sont en train d'être prises. Donc, phase de diagnostic, on entame dans des vraiment, on veut avoir une compréhension fine des pratiques, vraiment là où est-ce que les choses doivent possiblement changer par chantier, que ce soit RH, gestion, pratique policière, façon de faire, communication interne, qui joue un rôle important aussi dans toute cette discussion. Et à la fin, on vient avec un plan qui reprend une partie des actions qui ont été entamées, mais qui va plus loin avec des indicateurs d'impact. Et justement, on travaille avec un groupe de recherche HEC parce que l'agence ne voulait vraiment avoir une perspective que encore qui challenge en plus que nous on challenge nos clients, il y a quelqu'un qui nous challenge qui va nous permettre de nous pousser à avoir des indicateurs d'impact qui vont faire du sens pour le plan d'action. Donc vraiment tu sais, on est vraiment dans la compréhension des réalités. On a accepté, en fait, pour nous c'était important aussi dans le volet diagnostic d'avoir des conversations de groupe. Ce sont des conversations en fait, on a envoyé des invitations à des organismes du territoire de Repentigny, donc tout sujet confondu, des gens qui travaillent avec la société civile, pour les inviter à aussi nous partager, encore une fois, sur la base de 3 thèmes, un peu toutes les perspectives sur le travail policier, puis de nous amener vers des pistes de solutions. Je vous dirais que c'est à ce stade-ci, pour avoir été consulté plusieurs fois dans le passé, on ne voulait pas aller dans une consultation publique. On ne croit pas que la consultation publique sans empowerment réel, donc vraiment, on te consulte et donc après, tu vas avoir des résultats pour faire quelque chose. Ce type de consultation sans empowerment n'est pas utile à ce stade de notre perspective. C'est pourquoi on est allé vraiment dans des conversations de groupe et on va émettre un état de la situation à l'interne pour faire un peu un portrait de toutes les failles, l'évolution qui s'est pas faite dans les pratiques à l'interne. Donc vraiment adaptation du langage et éventuellement compréhension des réalités, mais je vous dirais que c'est on peut pas forcer en général les conversations et il faut y aller par étapes. Puis c'est un peu pourquoi on est vraiment super méthodologique dans nos façons de faire.
Oui, mais juste avant, vous avez parlé d'un point intéressant qui est sur la base volontaire. Et en fait, j'aimerais bien comprendre, alors, qu'est-ce qui empêcherait un service de police, par exemple, le service de police de Montréal, de vous approcher en connaissant la réalité, si on regarde les rapports des dernières commissions, la commission des droits de la personne, par exemple, de ce qui s'est passé récemment. Donc, on a cette réalité, on a une approche, on a un vouloir de trouver une solution. Donc, qu'est-ce qui empêcherait un peu cette...
Mais, tu sais, honnêtement, la question se pose à tellement d'organisations, right? Je veux dire, il y a tellement d'organisations qui on peut facilement trouver de la discrimination, du racisme et tout. Et après tout, tu sais, ça dépend de l'approche et de la vision, tu sais, de vraiment des leaders de l'organisation. Il y en a qui vont d'une autre façon, qui veulent encore tester des autres façons de faire, mais tu sais, rien n'empêche évidemment de nous contacter s'ils veulent un accompagnement en particulier. Mais nous, pour nous, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment important de s'assurer que si on embarque sur un chantier en particulier pour une organisation, que ce soit connecté avec d'autres actions qui sont en train d'être prises. Honnêtement, dans un monde idéal, c'est que justement, ça devient tellement systémique dans une perspective de stratégie d'entreprise, là, le DI devient tellement systémique dans l'organisation que, en fin de compte, que la culture commence à naturellement être inclusive à travers le temps et que tu as pas besoin nécessairement de à chaque fois passer par un moment de crise pour te relever. Ça, évidemment, c'est dans un monde idéal. Évidemment, on peut pas absolument tout garantir. Mmh. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu le plus possible les jetons qui vont permettre un peu de se réaliser. Puis pour nous, une formule vraiment essentielle, c'est que ce soit pas un seul jeton, un seul chantier d'organisation, mais que vraiment tout plusieurs chantiers à l'intérieur d'une organisation.
Il y avait beaucoup d'espoir hein, dans votre dernière phrase, beaucoup d'espoir. Donc, ça montre un peu que le travail d'équipe, l'adaptation, le dialogue, il mène à des solutions. Merci de faire ce que vous faites. Merci d'avoir créé cette belle agence, d'avoir été cofondatrice. On est très heureux, on s'estime très chanceux de vous avoir reçu.
Merci beaucoup d'être là avec nous à l'émission Touche pas à mes droits. Donc, c'est une émission, un podcast juridique, dans le fond, qui est consacré au profilage racial. On démystifie un peu c'est quoi, on vulgarise l'information pour les auditeurs. Donc, voilà, je voulais un peu plus vous présenter à nos auditeurs. Donc, vous êtes, je vais pas le dire là, mais vous êtes activiste. Je dis que je vais pas le dire. Pourquoi? Parce que j'écoutais la dernière fois le podcast avec Black Girls from Laval, puis vous disiez justement que vous aimez pas ça qu'on vous décrive comme étant activiste, parce que juste votre existence, c'est être activiste. Puis moi, je suis d'accord, puis I live by that, donc je suis vraiment contente. Et je vais vous laisser, dans le fond, expliquer vous êtes qui, Thierry Lindor. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus à nos auditeurs?
Oui, ça me ferait plaisir. Je connais IBA, mais est-ce que vous pouvez répéter votre nom? Parce que ça dit clinique juridique en
dessous. De Saint-Michel, hein? Ça aide pas trop. Donc, je m'appelle Oumi. Oui, exactement. Donc, Oumi, je suis également bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel.
Oui. Alors, moi, je m'appelle Thierry Lindor. Je suis entrepreneur. Je suis citoyen engagé. J'aime ça dire que je suis engagé en tant que citoyen. Je fais mon devoir de citoyen, qui est d'être... pas être douteux, mais d'être curieux de ce qui est fait dans notre société. Donc, c'est ce que je fais en tant que citoyen. Je suis aussi délégué au G20. J'ai représenté le Canada au G20, au Japon l'année dernière et en Arabie Saoudite l'année qui vient de passer. J'ai l'intention d'aller à Rome au mois de novembre, je crois, septembre. Et je suis aussi délégué aux Nations Unies dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine qui se termine en 2024. Donc, sinon, à part ça, j'ai cofondé FACE avec plusieurs personnes engagées qui a réussi à s'entendre avec le gouvernement fédéral sur une somme de 221 millions pour les entrepreneurs noirs. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une de mes grandes fiertés. Et la dernière chose, c'est My Voice Matter, qui est mon petit bébé, mon non-profit, où je paye des jeunes personnes noires, brunes, musulmanes, BIPOC, pour lire des livres. Je leur paye un salaire de 14-15 $ de l'heure. $15 de l'heure, ouais. Pour qu'ils lisent des livres, pour qu'ils apprennent à débattre, pour qu'ils apprennent à être engagés citoyennement.
Wow, merci Thierry de faire ce que tu fais. Je pense que c'est très important. Puis c'est un bel exemple pour tous les jeunes qui te regardent de dire « Je peux, avec mes talents à moi, toi tes talents, c'est la communication, c'est l'entrepreneuriat, avec mes talents à moi, faire la différence également et être une personne engagée. » Aujourd'hui, on voulait parler à la clinique juridique de Saint-Michel, donc le podcast « Touche pas à mes droits », on parle énormément donc, du service de police, qu'est-ce qu'il doit faire, le port de caméra, pourquoi le privilège racial, c'est quoi les biais inconscients. Aujourd'hui, avec toi, on aimerait parler des médias et on aimerait parler de l'influence des médias dans cet aspect-là et comment faire pour démystifier un peu ce qu'il faut être écouté, ce qu'il ne faut pas écouter. Je tiens à dire que je pense qu'on est tous d'accord sur ça, que les médias ont un énorme impact sur ce qui se passe. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le racisme systémique, qui vont se baser un petit peu sur les médias populaires pour former leur opinion et malheureusement, ça va engendrer un petit peu une répétition, puis etc. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de te demander, donc, qu'est-ce que tu penses? Comment les médias influencent positivement ou négativement le débat sur le privilège racial ou la position des minorités en général?
Très bonne question. Moi, je crois que les médias, on appelle les médias le quatrième pouvoir. Hein. Pour votre audience, allez regarder qu'est-ce que ça signifie, parce que je ne pense pas qu'on a le temps de le décortiquer. Mais le quatrième pouvoir, ça dit tout. Malcolm X, qui est un de mes héros, a dit « Les médias, c'est l'arme la plus puissante de la planète ». ça a le pouvoir de rendre les innocents coupables et les coupables innocents. Et je pense que, moi, l'image que j'aime illustrer lorsque je décris pourquoi les médias sont importants, c'est un peu comme dire si notre société... notre société, c'est comme un arc-en-ciel. C'est comme si on avait au primaire, au secondaire, on arrivait avec les trucs où est-ce qu'on avait plein de couleurs, puis on faisait de la gouache, on faisait la peinture, hein. On se rappelle tout ça. Donc, moi, pour moi, les médias, c'est eux qui ont en réalité le pinceau. Donc, on peut avoir toutes les mêmes couleurs, des belles couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, des genres, des intersectionnalités, autochtones, binary, non-binary, all of that beautiful stuff. On peut avoir tout ça, mais les gens qui ont le pouvoir de peinturer cette fresque, c'est les médias. Parce que, qu'on le veuille ou non, on voit l'érosion des médias traditionnels, la preuve. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, dans les années 2000-2010, ça n'aurait pas été possible. Omi n'aurait pas pu être à la télé en tant que femme noire. Oui, absolument. Femme noire voilée. Et toi, Iba, en tant que femme musulmane, assumée, fière de l'être, non plus. Donc, moi, j'aime dire aussi qu'on parle de télévision couleur, mais il y a juste une couleur. Ça, c'est voulu. Il ne faut pas croire que ce n'est pas voulu. Donc, le rôle des médias dans le profilage racial ou dans les piliers du racisme systémique, on sait qu'il y en a 6 grands piliers selon les économistes et les sociologues. On parle... le premier pilier, l'immobilier, où est-ce qu'on habite, est très important, les quartiers dans lesquels on vit. On a du racisme systémique là. Après ça, c'est l'éducation. On voit qu'il y a du racisme systémique au sein du système éducatif comme on connaît, juridiquement parlant. Le système judiciaire incluant le profilage racial et la police, les juges, les lois. On sait qu'il y a du système du racisme systémique. Le quatrième point, c'est toujours les médias. Pour le quatrième pouvoir, mais aussi le quatrième point de ces piliers du racisme systémique, qui est les médias. Après ça, on a l'acquisition de richesses en numéro 5 et la santé en numéro 6, comme on vient de voir un autre désastre qui ressemble un peu à Joyce Echaquan qui commence à rouler sur les médias sociaux, où est-ce qu'une femme noire, camerounaise, si je ne m'abuse, a été en détresse, fait une vidéo, 48 heures plus tard, elle est morte. Donc, il faut être capable de concevoir que en ce moment, est-ce que les médias en parlent? Ils ont parlé de Joyce Echaquan, mais est-ce qu'on parle de cette dame-là? Ils ont le pouvoir, encore une fois, de peinturer et de créer une fresque qui est soit proche de la réalité ou complètement éloignée de cette réalité-là. Donc, les médias ont une responsabilité. Et moi, ça m'encourage toujours, Omi, Iba, quand je suis sur des plateformes avec des queens comme vous qui prennent le contrôle, qui posent des bonnes questions et qui n'attendent pas qu'on leur donne des plateformes, mais qui créent leur propre plateforme. Donc moi, je vous dis chapeau parce que c'est la façon de contourner ou du moins de forcer les médias à comprendre qu'ils sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas embrassé l'équité sociale et surtout l'inclusion. Parce que la diversité, ça c'est un autre débat en soi, mais... Quand eux, ils cochent leur case de diversité, c'est parce qu'ils ont une femme blanche à la télé. Quand ils cochent leur case de diversité, c'est parce qu'ils ont un homme blanc à la télé qui s'identifie de la communauté LGBTQ+.
Exact.
Donc, il faut aussi qu'on reste très allumé dans ce dialogue de dire diversité versus inclusion. La diversité, c'est une réalité, comme je le dis toujours. L'inclusion, c'est un choix. Et les médias et tous les piliers du racisme systémique ne font malheureusement pas le choix d'être inclusifs.
Exact.
Je pense que tu as donné un exemple, puis avant d'enchaîner sur la deuxième question, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on donne un exemple ensemble, pardon. Donc, on sait que récemment, avec les situations de privilège racial, surtout avec ce qui s'est passé avec Camara, donc Mamadi Camara, il y avait 4 personnes de couleur blanche, donc dans un média populaire très connu, qui ont décidé de s'exprimer en fait sur est-ce que oui ou non il y avait du profilage racial. Ça, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Et ça me mène à ma deuxième question. Qui devrait-on encourager? Qui devrait-on écouter en fait dans de telles situations? Et puis ça, je ne dis pas ça juste pour nous, parce que je pense, j'ose dire qu'on est tous conscientisés ici, d'où touche pas à mes droits, mais les personnes qui veulent en apprendre plus, mais qui ne sont pas sûres, puis qui voient ça à la télévision, qu'est-ce qu'on leur dit? Puis comment on démystifie tout ça?
Comment être un bon allié en fait?
Oui, comment être un bon allié? Ben déjà, ça envoie un message clair. Tu sais, quand un média dit je mets 4 personnes caucasiennes qui ont logiquement. Parce que le débat est très pernicieux au Québec. Lorsqu'on dit mais de quel droit est-ce que ces gens-là vont parler de racisme systémique? Eux vont se défendre en disant mais nous, les francophones, on a vécu du racisme. Et ça, c'est très dangereux comme narratif. Pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, ce n'est pas que les personnes blanches ne vivent pas de discrimination ou d'oppression. C'est que les personnes blanches ne vivent pas cette discrimination, cette oppression par rapport à la couleur de leur peau.
Ouais.
C'est ça qui est important de comprendre. Mm-hmm. Donc, d'avoir des gens qui vont aller sur un panel pour discuter, disons-le franchement, pas seulement de profilage racial, de profilage racial anti-noir. Moi, j'aime même utiliser une certaine négrophobie. C'est ça qu'on vit. On vit une certaine négrophobie de la personne noire. Mm-hmm. La société canadienne et québécoise dans laquelle on vit a une peur, parfois viscérale, du corps noir. Que ce soit un homme, une femme, quelqu'un de la communauté LGBTQ+, des autochtones. Donc, il faut appeler une orange une orange. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit d'en parler? Absolument. Est-ce que c'est hypocrite? 100%. Est-ce que les Québécois accepteraient que 4 anglophones, dans les années 60, pendant la Révolution tranquille, c'est ça le contexte.
Exact,
c'est
exact.
De poser la question. Mm-hmm. Pendant la Révolution tranquille, dans les années 60, quand Michel Allon fait un poème mythique « Speak White », et que Paul Rose et Pierre Vallière parlent de les N-word blancs d'Amérique, est-ce qu'on aurait accepté ou est-ce qu'on aurait été outré que 4 personnes anglophones caucasiennes mm-hmm. parlent de la langue française? Jamais, jamais, jamais. Donc, il faut rester cohérent et surtout, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est ça. Moi, c'est non, ça qui m'offusque le plus. C'est rendu là, moi j'appelle ça du trolling médiatique.
Mm-hmm. Ils savent. Pourquoi du trolling médiatique?
Parce que, très, très bonne question. Moi, je pense qu'en ce moment, on est à travers une période qui va être étudiée pendant des décennies et des décennies dans le futur. On a vécu le Civil Rights Movement, on est en plein BLM Movement en ce moment. Et je crois que le Québec, lorsqu'on va étudier ça dans le futur, on va être capable de dire qu'il y avait une réelle volonté de faire ce qu'on appelle du wedge politic, d'envoyer des gens à droite et d'envoyer des gens à gauche.
Exact.
Et ça, c'est du trolling. Donc, quand on a un premier ministre qui dit qu'il ne reconnaît pas le racisme systémique, c'est du political trolling. Il sait que ça va faire les manchettes et ça cache le fait qu'il est en train de gérer la pandémie de façon... minable, littéralement. Donc, pour moi, c'est une stratégie de com qui fonctionne. Et ces mêmes médias-là, lorsqu'ils vont avoir 4 hommes blancs parler des conditions des femmes par rapport à la loi 21 musulmane en plus, ou quand ils vont parler du profilage racial par rapport à Mamadi Camara ou Kwadwo Yeboah, c'est du trolling médiatique. Ils savent qu'on va partager. Mm-hmm. Ils savent que ça va devenir des hashtags. Ils ne sont pas aussi cons que l'on leur prête, au fait. On est en train de les traiter de noms, mais en attendant, on partage. On partage les écrans, ça devient des mimes, ça devient si. Mais ça, c'est de la bonne. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Et c'est ça parfois qu'on ne comprend pas. Moi, je crois qu'ils sont très stratégiques dans ce qu'ils font.
Alors, c'est vraiment de la publicité à tout prix. C'est choisir un petit peu son
camp. D'où l'importance, justement, de renseigner les gens puis de les sensibiliser à ça pour que, justement, ils sachent, justement, que. Quand tu fais face à cette information-là, il s'agit de ça.
Voilà.
De je trouve que c'est vraiment important, tous les points que vous avez vraiment relevés, là, preach.
Oui, je vous promets. On va se tutoyer, ça ne dérange pas?
Il n'y a pas de souci.
Emoji. Donc, comme tu dis, Oumi, c'est quand on essaie de... Moi, je dis toujours, il ne faut pas éliminer la boîte, eliminate the box. Il ne faut pas think outside the box, il faut éliminer la box. Il faut dire, OK, eux nous lancent ça. Si on pense outside the box, ils sont en train de nous insulter. Mais si on élimine la boîte, puis on dit non, let's be creative, what are they really trying to do? Parce qu'ils le font, mais ils le font à perpète. Donc, c'est un peu comme dire Donald Trump, c'est un imbécile, mais Donald Trump, il a été élu. Mm-hmm. Donc, on peut le traiter d'imbécile comme on veut, mais lui, est-ce qu'il a accompli ce qu'il voulait accomplir? La réponse est oui. Donc, la même chose pour les médias, il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. On peut peut-être les prendre pour des incultes. On peut peut-être les prendre pour des gens qui sont insidieux dans leur manière d'approcher le débat, mais ce ne sont pas des cons. Ils savent que ça... Good publicity, bad publicity, on parle quand même de...
Exactement, voilà. Exactement. Voilà. Puis justement, vous parlez de ça, moi, ça me touche un peu au fond, là. Puis je sais, justement, quand on est face à tout ça, à ces manipulations pernicieuses-là, comment est-ce que, en tant que personne qui se sent incapable. Moi, des fois, je vois des choses sur les réseaux sociaux, sur les médias, comment ils portraient les Noirs, etc., les musulmans. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens tellement impuissante face à tout ça. Qu'est-ce que, en tant que jeune, en tant que personne de couleur noire ou juste en tant qu'allié, qu'est-ce que je peux faire pour contrer tout ça?
Oui. Je vais reverse engineer ta question. Donc, je vais commencer avec les alliés. La première chose que les alliés peuvent faire, c'est ceux qui ont des plateformes. Moi, je n'aime pas le terme give up your privilege. Mm-hmm. Parce que je pense que quand tu give up tes privileges, j'en ai parlé avec Iba sur notre conversation, tu ne nourris pas la révolution qu'on a réellement besoin, une vraie révolution tranquille, pacifique, non violente.
Exact.
Quand tu give up tes droits, si tu es un homme blanc ou une femme blanche privilégiée, si tu donnes tes droits, on n'est pas dupe non plus. Tu peux les ravoir dans 2 semaines, 3 semaines. Tu peux faire un mea culpa et revenir dans la machine en 2 secondes.
Exact.
Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Véronique Cloutier. Si Véronique Cloutier, elle veut vraiment être une alliée, il ne faut pas faire du symbolisme avec un magazine et mettre 11 femmes noires sur la page couverture. Ce qu'il faut faire, c'est... Parce que ça, c'est give up your privilege. C'est que tu donnes ta couverture, qui est d'habitude ton visage, et tu dis, maintenant je la donne à des personnes noires. Mm-hmm. Reprends tes privilèges économiquement par la suite. Une vraie chose qu'il faut faire, comme on dit en anglais, don't give your privilege or lose your privilege. Leverage your privilege. Mm-hmm. Il faut leverager vos privilèges. Et ça, c'est différent parce qu'on ne dit pas de les perdre. On dit que comme tu as une plateforme, pourquoi est-ce que Véronique Cloutier ne s'assurerait pas que ces 11 femmes-là ont un show de télé? Elle a la capacité de le faire. Mm-hmm. Elle est une productrice. Pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas un show à Neila, des Girls from Laval? Pourquoi elle ne donne pas un show à Jessica Prudencio? Mm-hmm. Pourquoi elle ne donne pas un show à Dorothy? Pourquoi est-ce que le prochain Bye Bye n'est pas hosté par Steve Daniel? C'est ça, leverager ses privilèges. C'est de dire, j'ai des privilèges et je ne vais pas seulement te dire comment faire, je vais te montrer comment faire. Et je vais t'épauler. C'est la différence, comme je dis toujours, entre le mentorship et le sponsorship.
Exactement. Le
mentorat, c'est je te dis comment faire et je te dis bonne chance. Le sponsorat, ça se dit pas, mais le sponsorship, c'est je te prends par la main, je te rends dans la salle et je sors pas de la salle tant qu'il n'y a pas une entente qui est signée. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on a besoin des alliés. On n'a pas besoin qu'ils perdent leurs privilèges, on a besoin qu'ils expandent leurs privilèges ou qu'ils refinancent leurs privilèges pour aller permettre une acquisition black, une acquisition autochtone, une acquisition femme, musulmane. Mm-hmm. Pour les personnes racisées, les jeunes, la première chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes outré dans les médias, c'est prendre vos plateformes qui sont disponibles. Allez sur les médias sociaux, parlez-en. Mm-hmm. C'est pas Thierry qui doit en parler, c'est pas Fabrice Ville, c'est pas Black Girls from Laval, c'est pas Woke or whatever, non. Faut arrêter de penser que, mais eux, ils ont leur plateforme. Non. Mm-hmm. Iba, elle n'avait pas de plateforme avant qu'elle prenne sa plateforme. Toi, Oumi, tu n'avais pas de plateforme avant que tu décides de faire ce que tu fais maintenant.
Exact.
Et c'est ça qu'il faut. Mm-hmm. Ça prend plus de jeunes mélanisés qui se disent, maintenant j'en ai marre, je prends ma plateforme. Que tu commences à parler à 5 personnes, ou à 50, ou à 500, on s'en bat les reins. C'est pas ça le but. C'est de dire qu'au moins les 5 personnes qui t'écoutent sur ton live, ils sont vraiment intéressés par ce que tu as à dire. Mm-hmm. Et c'est ça que le système fait souvent, c'est que le système nous décourage. On n'a pas assez de likes, on n'a pas assez d'amis, on n'a pas un petit cochet bleu sur Instagram. Mais on s'en fout. On s'en fout. Il y a des gens qui ont des cochets bleus qui disent n'importe quoi. Il y a des gens qui ont des millions de followers qui servent à rien. Ce sont des poteaux, ils servent absolument à rien. Donc moi, je suis beaucoup plus intéressé par la nano-influence que toutes les personnes hip-hop peuvent avoir. Et aussi, ne partagez jamais, au grand jamais, des articles qui vous oppressent. Parce que quand vous partagez un article, je ne vais pas nommer de compagnie, mais on les connaît.
Oui.
Un article de Montréal ou de Québec ou de médias qu'on connaît qui oppressent les femmes, les musulmans, les noirs, les autochtones, eux, un partage, pour n'importe qui comprend le marketing d'influence ou l'algorithme de Google, Twitter, Instagram, Facebook, un partage, ça vaut de l'argent. Mm-hmm. Un partage pour ces plateformes-là, c'est 5 à 10 $ de revenus. Donc, quand il y a 1000 partages et qu'on regarde que le trend, c'est que c'est nous qui partageons. Donc, lorsqu'un journal qui nous oppresse parle de Mamadi Camara, tentative de meurtre sur un policier avec une photo qui lui fait avoir l'air d'un truand et d'un criminel, on pense qu'on dénonce. mais on enrichit en réalité. Mm-hmm. Donc, la façon de faire, c'est capture d'écran et tu partages la photo de la capture d'écran. Parce que là, ils ne font aucun revenu. Tu es quand même capable de dénoncer et l'algorithme n'enregistre pas que c'est un partage de l'article en soi.
Exact.
Donc, il faut comprendre qu'on est en train de nourrir notre propre oppression mm-hmm. lorsqu'on partage des nouvelles qui sont très stratégiquement en train de nous attaquer.
Mm-hmm.
Très intéressant, c'est ce que tu me dis, parce que je pense que ça démontre qu'au-delà d'opinion, au-delà de dialogue, il y a des stratégies derrière ça, il y a des manières
exact.
De faire. Puis
oui.
si on veut réellement avancer, il faut qu'on commence à comprendre un petit peu la science derrière tout ça, puis à parler des vraies choses. Mm-hmm. Dernière question un petit peu, j'aimerais savoir, toi en tant que personne racisée, en tant que personne noire, comment tu te sens quand tu vois une personne prendre la parole, puis des gens qui disent « ben non, mais on a le droit », parce que c'est surtout un discours qu'on va entendre dans les universités énormément, donc la liberté d'expression académique, « we should be able to talk about what we want », on devrait être capable de parler de ce qu'on veut, puis ça nous met dans une dynamique un peu étrange, dans une position où on ne sait pas quoi dire, parce qu'on se met un petit peu face à notre université, notre institution, peu importe, ça peut être au-delà des universités. Alors comment se sentir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on se sente comme maintenant, you should not be able to say whatever you want. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ouais, j'ai l'impression qu'on exerce la psychologie inversée un peu, là. Puis ça me. Même moi, j'ai des questionnements par rapport à ça. Puis j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça.
Oumi, ce que tu viens de dire, là, c'est. Ça sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est un faux débat. C'est même pas un débat de liberté d'expression. Ils sont en train de tourner. Les gens qui sont éveillés en ennemis. Hein, le terme « wokenism ». Parce qu'en réalité, ils veulent qu'on soit endormi. Le système ne gagne jamais si tout le monde est éveillé.
Mm-hmm.
Right? Pensez-y, on est en train de brander à travers l'Amérique du Nord le terme « woke » en France, en Angleterre. Un terme qui était vu comme une belle chose est en train d'être tourné comme une mauvaise chose. De la même façon que le mot « nugus », qui est l'étymologie du N-word, que je déteste prononcer. C'est un mot qui veut dire empereur, en aramaïque, dans les langues sémantiques de l'Éthiopie. Mais on a pris un mot et on l'a tourné. La même chose qui se passe avec le woke movement. Et présentement, ce faux débat de liberté d'expression, c'est un mensonge, c'est pas vrai.
Mm-hmm.
Mais c'est la seule façon de le faire rentrer. De la même façon que notre premier ministre Legault est en train de dire « Ben là, il va falloir passer des lois pour la liberté d'expression. » Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il parlait de la loi 21? Il a dit « Ben là, il va falloir passer des lois pour la laïcité. » Mais c'est de la foutaise. Mais la seule façon qu'il peut passer ce genre de loi, c'est en utilisant l'ombre
mm-hmm.
et se cachant derrière l'ombre de la laïcité parce qu'il peut galvaniser. Et je ne suis pas en train de le comparer à Hitler, hein, mais il y a d'autres gouvernements qui ont été oppressants à travers le monde. Et je ne fais pas une comparaison, là, avant qu'on m'en quote, là.
Mm-hmm.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une stratégie vieille comme le monde. Ce n'est pas Legault qui l'a inventé. Le débat de se censurer, de s'auto-censurer par rapport à des mots qui blessent, des mots que mes ancêtres et tes ancêtres, Oumi, ont entendus, c'était le dernier mot qu'ils entendaient, sale N-word, avant d'être pendu, mm-hmm. d'être lynché, d'être brûlé vif, d'être mangé vif par des animaux, par des chiens. Ce mot-là, si on dit qu'il nous blesse, mais absolument qu'on doit censurer. Et l'hypocrisie derrière tout ça, c'est de dire on a des profs caucasiens, principalement, et quelques noirs qui essaient de rentrer dans la maison, qui disent « Ah non, on attaque la liberté d'expression. » Et ils parlent de « C'est dangereux de censurer.
Mm-hmm. »
Et ils font souvent l'amalgame entre pas l'apocalypse, mais le génocide qui a été fait contre...
Le Rwanda.
Non, ben le Rwanda, ils n'en parlent jamais.
Ouais,
mais l'Holocauste.
Voilà, l'Holocauste.
L'Holocauste, oui.
L'Holocauste a tué 10 millions de Noirs, mais en attendant, Léopold en a massacré 15 millions au Congo, mais on ne parle jamais de ça.
Mm.
Donc, ça, c'est un autre débat pour un autre tantôt. Mais l'Holocauste, merci beaucoup, Iba. L'Holocauste, en soi, on dit, ben, si on ne peut pas dire le N-word, c'est comme dire on ne parlera plus de l'Holocauste. Ben non, ça n'a rien à voir. L'Holocauste, c'est comme... Si on veut faire une vraie analogie, l'Holocauste, c'est l'esclavage.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on a le droit de parler d'esclavage à l'école? Absolument. Il ne faut pas dire que l'Holocauste, c'est comme le N-word. Ça n'a rien à voir. Parce qu'eux, ils disent, ben là, sinon, ça brime notre liberté d'expression. Mais ils étaient où, ces défendeurs de la liberté d'expression, lorsque depuis 400 ans, on censure l'histoire et la contribution négroïde à travers la planète?
Exact.
On censure le fait que l'Égypte couche la Somalie, l'Empire de Dahomey, l'Empire Olmec, on parle du Songhai Empire. Ils sont où? Donc, ils sont très rapides à censurer l'histoire des Noirs, BIPOC et des musulmans, mm-hmm. mais ils se sentent offensés quand ils doivent censurer un mot. Mais eux, ce sont les écrivains d'une censure qui dure 400 ans.
Exactement.
Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie de dire « Ah, je ne peux pas être censuré sur un mot quand tes ancêtres et la majorité blanche qui est au pouvoir censurent l'histoire autochtone et BIPOC depuis au moins 400 ans, voire même des milliers d'années, avec les nez des statues noires qu'on sait qui ont été saccagées dans le but de cacher la vraie origine de l'Égypte, en fait. Donc, mm-hmm. moi, je ne crois pas à ce débat. Je crois qu'on est en train de se faire passer en rouleau, mesdames. Honnêtement, exact. Queen, je pense qu'ils sont en train de faire les malins.
Non, c'est clair, là. Puis moi, ce débat-là, dès le début, comme on en parlait à l'université, puis tout le monde le sait que c'est un faux débat, comme tu dis, parce que l'histoire même, la vraie histoire, elle passe pas. Alors, d'où est-ce que tu expliques la nécessité d'utiliser ce mot-là, justement? Donc, tu as vraiment tout dit. je peux pas rajouter quoi de plus, genre, qui va enrichir le débat, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Merci de la part de nos auditeurs, parce que c'était vraiment enrichissant comme discussion, et vraiment ça m'a fait plaisir d'avoir participé à la discussion aujourd'hui avec toi. J'entendais un peu partout dans les médias sociaux, puis je suis comme, lui il faut que je le rencontre, lui il faut qu'on parle, surtout vu notre rôle ici à la clinique juridique de Saint-Michel. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler et d'avoir conscientisé un peu les jeunes aujourd'hui.
Merci à vous, mesdames. Puis honnêtement, continuez à faire ce que vous faites. C'est grâce à des changemakers comme vous. Puis vous me rappelez une jeune femme avec qui j'ai eu la chance de passer un certain temps, Malala, qui prenait sa place et, mm-hmm. encore une fois, on a essayé de l'assassiner et sa voix, en réalité, on l'a amplifiée. Mm-hmm. Donc, et toi, Omi, et Iba, vous me rappelez une jeune Malala avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger. Donc, continuez comme ça. Votre voix est importante et je vous dis merci.
Merci à toi.
Merci d'avoir accepté l'invitation. À très bientôt.
Au revoir.
Alors, c'était Thierry Lindor, entrepreneur, un citoyen engagé, mm-hmm. donc dans la cause du respect un peu des droits des minorités, également donc un délégué à les Nations Unies. Donc, on remercie énormément de nous avoir clarifié, de nous avoir fait démystifier des réalités qu'on comprend des fois très rarement, de mm-hmm. nous avoir un peu montré que des fois, c'est des faux débats, puis on veut nous faire croire quelque chose qui n'y est pas.
Exact.
Alors, Omi, comment tu te sens par rapport à ces deux magnifiques invités qu'on a reçus aujourd'hui?
Moi, on m'a dit aujourd'hui que j'étais malala, fait que ma journée est faite. Je vais rentrer chez moi, je vais dire ça à ma mère, là. Mais non, sérieusement, c'était un débat hyper enrichissant et pour de vrai, j'ai beaucoup appris, même sur ma propre personne aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui était là aujourd'hui. Merci aux auditeurs. Merci à toi, Iba, pour les questions hyper pertinentes puis toutes les interventions.
Présentée par la Clinique juridique de Saint-Michel.
En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel.
Néolabs, la Ville de Montréal.
Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
RIDM.
Une 24e édition plus engagée et rassembleuse que jamais.
Au programme, les 100 meilleures œuvres documentaires de l'année.
Projetées en salle du 10 au 21 novembre à Montréal.
Également disponible en ligne du 14 au 25 novembre partout au Canada.
Rendez-vous à la Cinémathèque québécoise, là où toutes les histoires se rencontrent.
Consultez la programmation au ridm.ca.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collecte. On a aussi un numéro normal qui est 438 7-8-4-2-3. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
There's a lot going on in the world today. See how it affects Montreal's Black and Caribbean community. Read the Community Contact. News, features, opinions, music reviews, cultural events, and so much more. Our voices, our perspectives, our community. Published every 2 weeks, pick it up at your favorite community spot or visit us online at our new and dynamic website, mtlcommunitycontact.com. Easy to navigate and lots to enjoy. Archived issues also on the site and available on the web. That's mtlcommunitycontact.com. Stay in contact.
I tried to tell the children of Jah to take heed, my brothers.
You know, Fantan, nigga, bad mind. Laughing me face like a sunshine. Two shot delegate from me drum line. Then I want see me win, then I want mine. Only time till I hit up me hotline. Cause me no want give, no want time. Chop up me soul in a two that a half time. Can't make no pussy cross over me guideline. When they ask me no day, yeah, who you try for shame round me neighbors. Call us bamboo in nature. When I need no gun for keep safe us. Mission me there right now if you feed my granny and my mother how. If I chose that A Force route, I probably would have been pan the DG grounds.
Now we can't go there. Life too short, bad man, nothing go well. No, we can't let judge anyone who save us. Lucifer try to take, we cannot play us.
But not this all and take them way down. Way down, tell us that me been also from way young. Grill up with me granny, never miss one, me air strong. 8 years old, I'm me bad like a strong rum, boy. This year for my team. Crack to me, mommy, they support my dream. Quit off, he walk on the clock time thing. Cause daddy can't pay no bill and buy me a drink. Ever to pick up the Glock 19. Nigga walk on the con and sell white thing. Whoa. Me out to ball under my sheets when the night times are come. Pray out to God, let me get my family out of the slum. We I beg your father for take away the pain, let it just be done. Pray out to God, so me get my family out of the slum. Inna my goal, yeah, mountain road of the solidest.
Inna my goal, yeah, mountain road of the solidest. Inna my goal, yeah, mountain road of the solidest. Inna my goal, yeah, mountain road of the solidest. Inna my goal, yeah, mountain road of the solidest. Life too short, bad man, nothing go well. No, we can't let judge are the one who stay. Lucifer try to take, we cannot play us. No, we can't go there. Life too short, bad man, nothing go away. No, we can't let judge are the one who saved us. Lucifer try to take, we cannot play. Don't mind just being alone. I keep my keeps at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my LOK, still can't fuck with LUV. But she that PYT, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind. Yo, I don't study them ting. I feel clean up me life that vim. Not too many boys go admit that toxic games come from within. The hardest time no win. Knocked out, panic off that gin. I'm sorry, I'm sorry. I wanna be in love, no hurry. When we used to depend on that phone in a late night, man was silly but lucky. Top me, Tiffany, slot me, top girl, I goes me, Chucky, Duppy. Rewind that time, Penny Rollie, I am a better man, that's for surely. Lost in an Angelis, I man, met for me, that's only. Don't mind just being alone, I keep my keeps at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my L-O-K, still can't fuck with L-U-V. But she that P-Y-T, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind. Don't mind just being alone. I keep my keys at home. My mind stays on her, but my soul stays in the lonely home. I'm on my L.O.P., still can't fuck with I.U.V. The shit at P.Y.T., still don't mind just being alone. I 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 still don't mind.
Inna my ends, football player, the juice man had from young. After man practice, so they stole me a grub, kaya roof just get pelt down. Take off with a speed, come me fail to the vagrant man, get mad pan we cunt. Scatter, scatter, run, me no say the enemy, I wish say we burn. Hold on the nigga, I don't mind, girl, I go there with the flavor. Little follow, she the wrong on the corner, better say she a live wrong, I check her. Way away from my man, take her, pull me back off the sauce here later. Scatter, scatter, run, me no say me enemy, I wish say me burn.
Oh Lord, but when you say fire pandemic, we no care but when no one say, mash up the CKUT Radio Community Radio CKUT.CAO CKUT 90.3 FM Montreal.
The following is a previously broadcast program.